L'échec du colloque qui s'était donc terminé le 30 août. Et le lendemain, donc, sur cet échec, l'empereur Charles Quint refuse aux protestants le droit de rentrer chez eux. Mais il va se produire un autre événement qui va bouleverser les choses, c'est que Charles Quint ne parvient pas à obtenir de la papauté le point qui était important pour lui, savoir la convocation d'un concile. Et par conséquent, eh bien, les protestants n'ont plus aucune raison d'être sommés, en quelque sorte, de revenir dans le giron de l'Église romaine. Donc, Charles Quint en est réduit à des menaces, et passant outre à ces menaces, le 12 septembre, l'électeur de Saxe, Jean-Frédéric, quitte Augsbourg. Charles Quint ne renonce pas à obtenir le ralliement des protestants, et de lui-même, il propose un certain nombre de concessions sur des questions de détails mineurs, les apparences, les vêtements sacerdotaux, les choses semblables, mais les protestants comprennent le piège et refusent de se laisser enfermer dans cette dialectique-là. Le 17 septembre, le prince Jean veut lui aussi se retirer, Charles Quint le retient, et Jean, donc, donne 4 jours à l'empereur pour trouver une solution. Le 27 septembre, c'est l'empereur qui reprend la balle au bon et lui donne 6 jours aux protestants pour trouver un accord avec le pape. Des deux côtés, on commence à s'énerver. Une autre condition que met l'empereur, c'est que les protestants, les princes protestants, doivent se joindre à lui pour réduire les anabaptistes en Suisse. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette présence des anabaptistes en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que dès ce moment, la réforme est qualifiée de secte. Curieux retour des choses. Et la dernière entrevue qui a lieu est une entrevue qui est lourde de menaces. Seulement, il y a un autre élément aussi qui va faire basculer les choses, c'est que l'archevêque primat de l'Église allemande refuse de prendre les armes contre ses frères. Et ce faisant, les menaces de Charles Quint ont un peu tendance à tomber dans le vide. Les catholiques s'en prennent avec virulence au prosélytisme protestant, et devant son échec total, le 4 octobre, Charles Quint écrit au pape pour que ce dernier convoque une nouvelle croisade contre les protestants. À Augsbourg même, les catholiques commencent à se livrer un certain nombre d'actes de brutalité à l'endroit des protestants. Mais il y a un autre élément aussi qui va contribuer à désamorcer les choses, c'est la présence des Turcs aux frontières de l'Empire. L'empereur a besoin de l'appui des princes protestants pour combattre les Turcs, et les princes allemands décident qu'ils ne participeront pas à la guerre contre les Turcs si l'empereur ne reconnaît pas la liberté de religion. Charles Quint se résout donc à la guerre. Et le 22 décembre, la Diète se disperse enfin pour que se fasse une mobilisation des forces catholiques. En fait, cette mobilisation des forces catholiques n'aura jamais lieu. Et en dernier ressort, l'analyse qui était d'ailleurs celle de Luther, c'est que la Diète d'Augsbourg s'est finalement achevée par une victoire des protestants et que la Diète affermit la réforme. Quelques années plus tard, en 1505, l'empereur reconnaîtra la liberté de religion et signera avec les princes protestants la paix d'Augsbourg, ce qui s'appelle la paix d'Augsbourg, qui va donc entraîner une période de concordat, si l'on peut dire. Donc c'est une victoire. C'est une victoire incontestable du protestantisme, d'abord parce qu'elle a permis l'élaboration de la fameuse déclaration de foi qui va être l'étendard de la réforme pendant tout le XVIe siècle, et deuxièmement parce qu'elle aboutira finalement à une reconnaissance volens nolens par l'empereur de l'existence légale, en quelque sorte, de la réforme en Allemagne. Maintenant, il y a un autre point qu'il nous faut voir quand nous parlons de Luther, c'est l'attitude de Luther sur un certain nombre de grands points, de grands problèmes de son temps. D'abord, les problèmes de société. Luther a une conception très intéressante des rapports de l'Église et de l'État. Et cette conception va être à peu près partagée par l'ensemble des églises issues de la Réforme, on peut dire jusqu'à nos jours. C'est la doctrine des deux règnes. Il y a deux institutions qui ont été voulues par Dieu et instituées par Dieu. Le domaine de la société civile, qui est le domaine du moindre mal. Et pour faire régner ce moindre mal, compte tenu du fait que l'homme est un homme pécheur, Dieu a institué des autorités civiles, les magistrats, les princes, les pouvoirs politiques, etc. Et la tâche de ces derniers est de réprimer les abus les plus notoires de façon à ce que la société ne tourne pas au chaos. Il y a donc besoin d'une contrainte et l'autorité civile a le droit et le devoir d'utiliser la contrainte pour amener les récalcitrants dans le droit chemin. À côté de cela, il y a le domaine de l'Église, qui est aussi bien entendu une institution divine, mais qui ne doit pas se confondre avec la société civile et qui n'a pas les mêmes armes, qui n'a pas les mêmes moyens, qui elle ne doit pas employer au contraire la contrainte. En matière de foi, nul ne doit être contraint, ça c'est le grand point de la réforme qui hélas ne sera pas toujours appliqué. Mais dans la doctrine de la réforme, c'est en tout cas ainsi que les choses doivent être. Luther était aussi un homme qui croyait en l'imminence du retour de Jésus. Il croyait d'ailleurs qu'il était en quelque sorte un prophète. Il ne le disait pas ainsi. Mais il croyait qu'il était un homme providentiel, suscité par Dieu, pour en quelque sorte hâter la fin. Et que, en quelque sorte, son ministère et le grand mouvement de réforme qui était né de son ministère était un des signes avant-coureurs de la fin. Mais cette croyance dans l'imminence de la fin ne l'amenait pas dans un illuminisme, comme ce sera celui, par exemple, des Illuminés de Münster, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et c'est lui qui disait cette fameuse phrase que nous avons souvent citée, que s'il savait que le Seigneur revenait demain, il planterait un arbre. Luther croyait que l'Église n'avait pas à entrer dans une voie théocratique, ne devait pas donc avoir des ambitions terrestres et humaines, et que par conséquent, elle ne devait pas se mêler trop avec les pouvoirs civils. Ça, c'était la théorie, bien sûr. Nous avons vu qu'en pratique, il en était parfois autrement. Bon, c'était aussi une époque où Luther a remis en valeur, nous l'avons vu déjà aussi, la sainteté et l'honorabilité du mariage. Honorabilité qui était très contestée, tout en laissant, bien entendu, la possibilité du célibat. Bon, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Autre point sur lequel Luther aussi va devoir prendre position, c'est le prêt à intérêt. Nous sommes ici au XVIe siècle, nous aurons l'occasion de revoir cela, c'est l'époque des grandes découvertes. Et c'est l'époque où, par conséquent, il y a un essor du capitalisme, le capitalisme va naître. On a, chronologiquement, le capitalisme né avec la réforme. Et on a parfois prétendu que le capitalisme était une conséquence de la réforme. En fin de compte, il n'en était rien. Luther s'oppose au prêt à intérêt. En fait, dans la société médiévale, c'était là la position de l'Église catholique, et cette position avait empêché justement un certain essor économique. Et les seuls qui, quand on avait besoin donc d'emprunter des fonds, ont se tourné vers les seuls qui étaient en dehors du système de l'Église, si vous voulez, à l'époque du Moyen-Âge, les Juifs. Mais en même temps, on les méprisait pour cette raison, justement, qu'ils étaient des usuriers. Et en même temps, on les utilisait. Et vous, c'était ambigu. Les Juifs étaient très utiles parce qu'ils étaient les seuls qui avaient le droit donc de pratiquer l'usure, et en même temps on les haïssait et on les méprisait pour cette raison qu'ils pratiquaient l'usure. Comme ils n'avaient pas d'autre choix, ils n'avaient pas d'autre possibilité que d'être dans cette situation-là, bon ben voilà, c'était ainsi. C'est de là qu'est né le mythe du Juif ami de l'argent, hein, ça vient de là. Donc Luther s'oppose à l'évolution des mentalités et des mœurs dans le domaine. Luther aussi refuse la notion que l'individu a la possibilité de se faire justice lui-même précisément au nom de la doctrine des deux règnes. Et c'est au nom justement de cette vision des choses qu'il va prendre parti contre les paysans. Car il estime que les paysans sont des gens justement qui violent cette notion et qui se font justice eux-mêmes. Pour Luther, le chrétien doit souffrir l'injustice plutôt que de se faire justice lui-même, mais cela ne l'empêche pas de protester, de dire la vérité, de dire que ce qu'il est en train de souffrir est une injustice. Ce qui est d'ailleurs une position assez biblique d'une manière générale. Maintenant, la position de Luther sur la guerre. Elle découle aussi de sa doctrine des deux règnes. L'homme est pécheur. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des méchants. Et les princes, dans l'intérêt de leurs concitoyens, de la même manière qu'ils ont le droit et le devoir d'employer le glaive contre les malfaiteurs qui sont à l'intérieur de leurs états, les princes ont aussi le droit et le devoir de résister à ceux qui, venant de l'extérieur, voudraient agresser la paix et les intérêts vitaux de leurs concitoyens. Mais, pour Luther, la seule guerre qui est justifiable pour un chrétien, c'est la guerre défensive. Et c'est au nom de cette vision, d'ailleurs, qu'il s'opposera à ce fameux complot dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, qui consistait à prendre les devants d'une soi-disant attaque catholique qui se dessinait. C'était entièrement faux, nous l'avons vu. Autre point, alors là, sur lequel Luther, alors, est très, très contestable. Car Luther était un homme, et il n'est pas un saint. Le protestantisme n'a pas de saint. Luther, donc, et les Juifs. Ça, c'est une question extrêmement douloureuse. La situation des Juifs au XVIe siècle était une situation qui allait en se dégradant. Elle allait en se dégradant à cause justement de cette évolution économique de la société des temps modernes, si l'on peut dire. Et les Juifs souffraient à cette époque-là, en particulier, de nombreuses expulsions. Les princes, quand ils avaient besoin d'argent, expulsaient les Juifs de leurs états pour des raisons théologiques, pour être agréables au Seigneur, car les Juifs souillaient par leur présence immonde et impie, la terre sainte des états dans lesquels ils se trouvaient, mais avant de les expulser, on prenait bien soin de confisquer tous leurs biens. Ça joignait l'utile à l'agréable, ça permettait donc d'acquérir les grâces du ciel en faisant une œuvre pie à l'endroit des assassins du Christ, et en même temps, ça joignait aussi l'utile, à savoir que ça permettait de renflouer les finances quand on en avait besoin. On attendait quelques années, on faisait revenir les Juifs, et quand les Juifs s'étaient enrichis, à nouveau on les expulsait, on confisquait leurs biens. Hein? Bon. Alors, il est évident que cette situation était extrêmement douloureuse pour les Juifs, et Luther, donc, va très vite, comme d'ailleurs ceux qui l'ont précédé, s'intéresser à eux. D'ailleurs, un des précurseurs de la réforme, le maître de Luther en ce qui concerne les lettres hébraïques, Ruchelin, est un homme qui va se pencher sur les textes de Rashi. Et par l'intermédiaire de Ruchelin, Luther aussi va entrer en contact avec les commentaires de la Bible de Rashi, le grand commentateur juif du XIIe siècle. D'autre part, la certitude qu'a Luther que nous sommes dans les temps de la fin, que le retour du Seigneur est imminent, l'amène à s'intéresser aux Juifs car il sait par la Bible qu'avant le retour de Jésus, il y aura un réveil parmi les Juifs. Et Luther se demande si justement ce réveil parmi les Juifs ne va pas être la réforme. S'il ne va pas être lui, Luther, le prophète qui va amener les Juifs à se tourner vers Jésus. Et Luther, donc, va se tourner vers eux. Mais il ne faut pas oublier qu'avant sa conversion, Luther jeune, le jeune Luther, était, comme tous les hommes de son temps, antisémite. Et notamment, il accuse les Juifs d'être des orgueilleux. Lorsqu'il se convertit, eh bien, il va changer d'attitude. Et il écrit, par exemple, commentant l'Épître aux Romains, et notamment le chapitre 15, verset 11 de l'Épître aux Romains, « Louez-le, nation, avec son peuple », qu'il faut tolérer les Juifs et louer Dieu avec eux. Il pense qu'un certain nombre de Juifs seront sauvés avant que l'ensemble du salut ne vienne pour le peuple. Bien sûr, avec l'Épître aux Romains, il sait que c'est le retour de Jésus qui provoquera, le retour d'Israël à Dieu par Jésus, et qu'en attendant, il ne faut pas provoquer les Juifs ni provoquer de haine réciproque. Il a très bien vu que c'est essentiellement l'attitude de haine des chrétiens qui empêche les Juifs de croire et de se tourner vers Jésus. Et Luther considère que sa tâche à lui, c'est de persuader les Juifs en leur montrant d'abord que Jésus est un des leurs, ce qui est une intuition géniale, notamment en ce temps-là. Il veut les amener à réaliser que la foi néo-testamentaire est une foi qui n'est pas étrangère à leur culture. Et dans un grand élan de sympathie qu'il a pour les Juifs à cette période-là, il leur dédie un de ses ouvrages qu'il intitule ainsi « Il est né juif ». Il, évidemment, c'est Jésus. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'à cette période-là, un certain nombre de catholiques accusent les Juifs d'être à l'origine du mouvement de la Réforme. Seulement, les Juifs vont réagir d'une manière, je dirais, un peu négative au message de Luther, car ils sont choqués par un point, c'est celui de la justification par la foi seule. La justification par la foi seule amène Luther à rejeter toutes les œuvres de la loi, donc toute la tradition juive. Comprenez bien. Et ça, bien évidemment, les Juifs ne peuvent pas l'accepter. Et c'est alors que Luther va changer son fusil d'épaule complètement. Jusqu'en 1530, Luther use vis-à-vis des Juifs d'un ton conciliant, car il espère voir les Juifs se tourner vers Jésus. À partir de 1530, le ton change. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Eh bien, Luther va maintenant accuser les Juifs d'un certain nombre de choses. Premièrement, il reprend à son compte toutes les légendes qui couraient sur le compte des Juifs, au Moyen-Âge, qu'ils empoisonnent les puits, qu'ils propagent la peste, qu'ils assassinent des enfants pour prendre leur sang, pour faire des matzot pour Pessah, enfin toutes sortes de choses de ce type-là. Et puis surtout, il accuse les Juifs d'être des gens qui prônent l'idée d'un règne terrestre des Juifs. Il ne veut pas d'un règne terrestre des Juifs. Il attaque violemment l'ouvrage anti-chrétien qui circulait parmi les Juifs de cette époque-là, le Toldot Yeshu, l'histoire de Jésus, qui est effectivement une histoire abominable, mais qui est une réaction antichrétienne. Et il s'oppose en particulier à un de ses amis, un Strasbourgeois, qui se nomme Capiton, qui en 1527 écrit un commentaire sur les psaumes. Ce Capiton est un homme remarquable, tout à fait intéressant, car il est le premier protestant, premier chrétien, disons, tout court, n'est-ce pas, après le Moyen-Âge, à redécouvrir la place d'Israël dans le plan du salut de Dieu. Et à ce niveau-là, Capiton doit être vraiment salué comme un homme, un véritable précurseur. Et c'est ainsi que dans son commentaire du livre des psaumes, Capiton écrit que les Juifs seront rassemblés dans leur terre avant le retour de Jésus, qu'ils redeviendront le peuple élu. Ça, Luther ne peut pas l'accepter. Luther condamne Capiton, donc, dès 1530. Luther aussi craint que l'influence des Juifs au sein du mouvement de la Réforme n'entraîne, comme on le voit par exemple chez Servet, un rejet de la divinité de Jésus, et chez certains anabaptistes, un retour au Shabbat, au respect du Shabbat et même à la circoncision. Il y a un risque de judaïsation, à son sens, du mouvement de la Réforme, et il voit dans les Juifs, il accuse les Juifs, dès cette période-là, d'être les suppôts de l'Antichrist. Il va plus loin. Il y a, dans les dernières années de la vie de Luther, un véritable crescendo antisémite. Il appelle les princes à expulser les Juifs de leurs États. Les princes protestants à expulser les Juifs de leurs États, ce qu'ils ne feront pas d'ailleurs. Devant, justement, ce refus, eh bien, Luther ira jusqu'à demander que les Juifs soient exterminés. Bon, il ne le fait pas dans des écrits d'une manière ostensible. À la fin de sa vie, Luther, plutôt les disciples de Luther, avaient pris l'habitude de venir respectueusement dans la salle à manger pendant que Luther prenait ses repas. Ils avaient leur petit carnet et ils notaient ce qu'on appelle les propos de table de Luther. Luther parlait librement, n'est-ce pas, pendant qu'il prenait ses repas, et on notait religieusement, n'est-ce pas, tout ce qu'il disait. Une espèce de vénération là, qui dépassait un peu la limite de ce qui était normal, n'est-ce pas, de la part des disciples de Luther. Et dans les propos de table de Luther, il y a des propos absolument invraisemblables contre les Juifs. Des choses terribles, terribles, terribles. Des véritables appels au meurtre, des appels au génocide. Et un certain nombre d'historiens juifs ont noté qu'il y a une filiation indiscutable entre les propos de table de Luther et puis le génocide hitlérien, quoi. Les princes ne suivront pas Luther dans ses excès. Luther le pensait-il vraiment, d'ailleurs? Il parlait comme ça, bâton rompu. Bon, je suis certain que de tels propos dénotaient quelque chose, indiscutablement. Mais enfin, est-ce que Luther s'est pas entraîné non plus dans sa verve, etc. Bon, mais en tout cas, ce que les princes allemands n'ont pas fait de son temps, Hitler, lui, l'a fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est indiscutable. Le dernier sermon de Luther avant sa mort a été un sermon contre les Juifs. Et même certains de ses amis trouvaient que dans le domaine de l'antisémitisme, il allait trop loin. Bon, voilà, ça c'est sûr que c'est une tâche sur la vie de Luther. Néanmoins, comme nous l'avons vu avec Capiton, il y avait ça et là, dès cette époque-là, une nouvelle attitude qui commençait à poindre à l'endroit des Juifs. Luther a fait d'autres fautes. Luther était trop allié avec les princes, nous l'avons vu. Et notamment, un gros problème va se produire dans les dernières années de sa vie. Car son ami, le prince Philippe de Hesse, eh bien, va tomber amoureux d'une jeune femme. Et puis, vivre dans l'adultère avec elle, disons. Bon. Luther, il demande à Luther de lui permettre de répudier sa femme légitime pour pouvoir épouser cette concubine, disons. Bon, Luther ne peut pas, parce que Il sait bien, il respecte trop la parole de Dieu. Il ne peut pas sanctionner un divorce pour une telle raison. Et alors Luther se trouve écartelé entre, d'un côté, le désir de rester fidèle à la parole de Dieu, et d'autre part, le désir qu'il a d'être agréable à son prince, ami, protecteur et tout ce qu'on voudra. Finalement, Luther, après avoir beaucoup réfléchi, va trouver un moyen terme, et lequel il constate qu'il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament de condamnation officielle de la bigamie, ou de la polygamie, disons. Et finalement, il conseille au prince de ne pas répudier sa femme légitime, sa première femme, mais d'épouser cette deuxième femme. Et Luther va donc marier Philippe de Hesse avec sa concubine. Bon, il le fera en secret, parce qu'il sent bien, il se sent en porte-à-faux quand même. Le secret ne sera pas gardé, et l'affaire va faire scandale. Et alors ça, évidemment, ça va faire un grand tort à la réforme. Bon, Luther est un homme qui se rend bien compte que là, il a, comme on dirait familièrement, gaffé. Mais enfin, le mal est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Luther, nous l'avons vu, était un homme qui a beaucoup écrit. Il a écrit plus de 600 titres, 600 ouvrages. Il a fait un travail théologique énorme. Et ça, dans la langue du peuple, dans une langue qui était très simple, qui tranchait énormément avec celle des théologiens modernes. Il voulait être compris par le plus humble parmi ceux du peuple. Luther était un homme qui aimait à affirmer « Je suis né pour combattre ». Il avait un tempérament de lutteur et jusqu'à la fin, il a fait preuve de ce tempérament de lutteur. Pas toujours, nous l'avons vu dans une manière qui était toujours bonne, mais en tout cas, il l'a fait. Il a fait en sorte que, bon, son ouvrage essentiel, nous l'avons vu, c'était la traduction de la Bible. De son temps, la Bible coûtait une semaine de travail d'un artisan. Bon, c'était encore beaucoup par rapport aux normes modernes, mais par rapport à ce qu'était le cas au Moyen-Âge, c'était quand même une énorme révolution. Ça voulait dire que la Bible était pratiquement abordable par n'importe qui, à condition de le vouloir et d'en mettre le prix. Sur ce plan-là, un Allemand sur 70 possédait la Bible en 1535. C'est quand même extraordinaire. Et ça, grâce à l'œuvre de Luther. Pour Luther, la Bible devait être lue donc avec le sentiment de sa double inspiration, l'inspiration de l'auteur. Les auteurs ont été pour lui totalement inspirés. Et en même temps, celui qui s'approche de la Bible, avec le lecteur qui s'approche de la Bible, avec le désir de connaître la vérité, reçoit l'inspiration du Saint-Esprit pour la comprendre. Il y a la doctrine de la double inspiration, l'inspiration de l'auteur et l'inspiration du lecteur. Luther était un homme qui avait sur lui-même et sur son œuvre un certain regard de lucidité. Et c'est ainsi que Luther pouvait affirmer « Jean Hus a commencé à prêcher l'Évangile, mais moi je l'ai fait 100 fois plus que lui ». Il ne disait pas ça par orgueil, il disait tout simplement parce que ça c'était vrai. Il disait par exemple « Personne ne peut nier que tout ce mouvement a commencé par moi ». Mais Luther était pourtant un homme humble. Et notamment, il s'est toujours opposé au terme luthérien. Il ne voulait pas qu'on parle de son mouvement comme du mouvement luthérien. Il disait que ça c'était quelque chose qui venait du diable. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les églises dites luthériennes ne s'appellent pas officiellement luthériennes. Elles s'appellent en France par exemple Église de la Confession d'Augsbourg. Et c'est pour plus de commodité qu'on les appelle Église luthérienne. Mais officiellement, il n'existe pas d'Église luthérienne dans le monde. Bon, Luther était un homme qui se connaissait. Il savait qu'il était imparfait. Il se méfiait de son propre tempérament. Il savait qu'il avait un tempérament impulsif. Et alors, il pouvait dire qu'il a été poussé d'en haut pour agir comme il a agi. Il a agi, dit-il, malgré lui, en proie à une contrainte intérieure, et qu'il a avancé, dit-il, j'ai avancé comme une mule aveugle. C'est le Seigneur qui m'a poussé. Il était conscient que son temps était un temps de révélation de l'Évangile qui annonçait, nous l'avons vu, la fin des temps. Il a pu dire « Je suis le prophète des Allemands ». Luther était un homme qui, dans ce domaine-là, était tout à fait désintéressé. Il a pu dire que Dieu cache, il révèle Jésus-Christ à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qu'il a été de cela. Autre point tout à fait contestable de l'œuvre de Luther, c'était sa position vis-à-vis de la guerre des paysans. Ça, il nous faut revenir là-dessus, nous avons fait quelques allusions, maintenant il faut revenir sur cette guerre des paysans qui a eu lieu de l'été 1524 au printemps 1525. C'est une guerre qui est partie d'Allemagne, qui s'est étendue en Suisse et en Autriche, et qui a fait entre 70 et 100 000 victimes. Donc c'est vraiment une tragédie énorme. La guerre des paysans avait pour raison des revendications religieuses et sociales. La notion, et c'était finalement la conséquence de la prédication de Luther, la notion de justice divine avait entraîné chez les paysans l'idée que le servage auquel ils étaient astreints était une réalité qui était profondément injuste. Dans la mesure aussi où Luther avait affirmé le sacerdoce universel, les paysans en avaient conclu que les laïcs étaient aussi des gens qui avaient des droits dans la société civile. Ils s'étaient mis donc à revendiquer ces droits. Dans un premier temps, ils avaient fait appel à Luther. Et Luther avait cherché une solution pacifique. Un des amis de Luther, Thomas Mentzer, était entré, lui, dans le mouvement aux côtés des paysans. Il avait pris fait et cause pour les paysans et Luther l'avait désavoué. Luther avait d'abord donc cherché, nous avons dit, une solution pacifique. Il avait reconnu le bien fondé d'un certain nombre de revendications des paysans. Il s'était mis à stigmatiser la vie insolente des princes, leur endurcissement face à l'Évangile. Et il leur avait proposé donc d'assouplir la condition des paysans. La tentative de médiation de Luther s'était terminée par un échec. Et devant cet échec, les paysans avaient donc pris les armes. Là, Luther était au pied du mur, ou bien il prenait le parti des paysans comme une serre et il s'aliénait les princes, ou bien il prenait le parti des princes et alors à ce moment-là, il se dressait contre les paysans. Luther a choisi de prendre le parti des princes, pour deux raisons. D'abord parce qu'il avait besoin d'eux, et puis deuxièmement parce que Luther était un homme, nous l'avons vu, qui avait une très grande notion d'autorité. Et se basant sur le texte de Romains « Soyez soumis aux autorités », il a donc condamné les paysans. Seulement, Luther, là où il a déraillé à fond, c'est que non seulement il a condamné la révolte des paysans, ce qui était en soi légitime éventuellement, mais il a conseillé aux princes la plus grande fermeté et je dirais la plus grande férocité. Ça, il n'avait pas besoin de le faire. Il a écrit contre les paysans, des pamphlets d'une rare violence, comme il savait le faire contre les juifs d'ailleurs, appelant à la répression la plus féroce, les appelant des bandes pillardes, l'effet a été déplorable. Déplorable notamment sur les paysans. Plus tard, évidemment, quand les princes sont allés trop loin dans la répression, Luther a manifesté sa réprobation, mais le mal était fait. Et Luther est apparu aux yeux des paysans comme le valet des princes. Et on peut dire que dans ce domaine-là, Luther a été un très mauvais exemple pour d'autres réformateurs, par exemple Zwingli, que nous aurons l'occasion de le voir, est allé encore beaucoup plus loin que lui dans ce domaine-là, dans le domaine politique. Luther a pu écrire, par exemple, que c'était un temps de colère et non pas de miséricorde, et que les princes devaient exercer la colère et non pas la miséricorde à l'endroit des paysans. Vous voyez comment ça allait, quoi. Bon, ça affaiblit véritablement l'impact du mouvement luthérien. Luther a cessé de paraître comme le prophète des Allemands qu'il aimait à se présenter, mais il est apparu véritablement comme un homme de parti, l'homme du parti des princes. La réforme a dès lors perdu le soutien des paysans, mais elle a continué à se propager dans les classes moyennes. Autre point, Luther et la papauté. Luther, nous l'avons vu, avait longtemps hésité à se dresser contre la papauté, et notamment à cause du texte de Matthieu 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et ce n'est que lorsqu'il a été convaincu que le pape était véritablement l'Antichrist qu'il a revu sa position. Et alors là, Luther a fait une exégèse très profonde de ce texte de Matthieu 16, et il a conclu que la pierre n'était pas Pierre, la personne de Pierre, mais la parole sur laquelle, justement, Pierre s'était appuyé pour confesser Jésus-Christ. La pierre est donc la parole totalement inspirée, qui n'est pas seulement la parole de Pierre, mais également la parole des autres disciples. Et que par conséquent, dans la mesure où une Église s'appuyait sur la parole, elle était véritablement l'Église, que si le pape s'était appuyé sur la parole, il aurait pu éventuellement se réclamer de cette parole, mais dans la mesure où il violait cette parole, il ne pouvait plus s'en réclamer. Quant au pouvoir des clés, ce pouvoir des clés, il constate, n'est pas donné au seul Pierre, mais aux autres apôtres. Et pour lui, les clés, c'est précisément le pouvoir de confesser la foi qui est conforme à l'Écriture. Le rocher sur lequel l'Église est construite est la confession de foi de Pierre en tant que représentant de l'Église tout entière. Et c'est l'Église qui a le pouvoir des clés. Même si Pierre peut effectivement jouir d'une certaine primauté, dit Luther, notamment dans le Collège des Douze, il n'est en rien supérieur aux autres apôtres, et il n'est rien dit de ses successeurs, et ses successeurs ne peuvent pas, ses soi-disant successeurs ne peuvent pas se réclamer de la primauté de Pierre. Néanmoins, dans la mesure où le pape aurait été un homme qui aurait respecté la parole de Dieu, Luther était prêt à lui reconnaître une primauté d'honneur au service de l'unité, ce qui avait été réclamé par exemple au moment de la confession d'Augsbourg, du colloque d'Augsbourg. Bon, dans la mesure où le pape ne pouvait pas du tout accepter, évidemment, cette définition de son ministère, ça a échoué. Donc, si vous voulez, nous pouvons dire que Luther a été un homme de son temps. Luther est un homme qui a été un grand homme de Dieu, un grand homme de foi. Je crois qu'il faut le reconnaître. Un homme d'un courage extraordinaire. Il est un homme qui a osé se dresser, comme il le dit lui-même, poussé par une force surhumaine, par l'Esprit de Dieu. Il a osé se dresser devant cette formidable forteresse qu'était l'Église catholique de son temps. Et le faire tout seul, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il faut que nous gardions devant nos yeux l'image de cet homme qui, donc, à la diète de Worms, s'était dressé devant tout seul, le petit moine, là-bas, devant l'empereur, les représentants du pape, les cardinaux, les princes de l'Empire, qui étaient là, n'est-ce pas ? Et sommé de se retracter, cet homme qui dit, « Eh bien, je suis prisonnier de ma conscience, je ne le peux pas. Hein » Il fallait avoir du courage pour dire une chose pareille. Il fallait avoir du courage. Donc c'est vraiment un grand homme de Dieu. Mais c'était un homme. Il avait ses limites, il avait ses failles, il avait ses faiblesses, il avait son tempérament, il avait ses erreurs. Et ça aussi, il faut avoir le courage de le reconnaître. C'était un homme intolérant, comme beaucoup d'hommes de son temps. C'était un homme grossier. Les propos de table sont bardés de grossièreté à faire rougir un corps de garde. Ça, c'est sûr. Mais c'était un homme que Dieu a utilisé. C'est un homme par lequel Dieu a su se glorifier. Il était conscient qu'il fallait que d'autres poursuivent sur ce trajet-là. Il dit qui est Luther. Il dit finalement, rien qu'un instrument, comme il dit, une mule que Dieu a utilisée. Il était conscient de ça. Et pourtant, il était capable de dire, eh bien, c'est par moi que ça s'est fait quand même. Je suis prophète des Allemands. Il avait un regard assez juste sur lui-même. Ça, c'est assez. Il faut lui rendre aussi cette justice-là. La réforme se répandra donc pendant tout le restant de sa vie en Allemagne. Et Luther va mourir donc le 18 février 1546 à l'âge de 63 ans, juste l'année où allait s'ouvrir le Concile de Trente. C'était un véritable... Là, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Enfin, c'est tout à fait intéressant, une coïncidence tout à fait étonnante. L'année où allait commencer la contre-réforme catholique, eh bien, le grand réformateur s'était né. Donc, si vous voulez, voilà en gros ce qu'on peut dire de la première partie de la réforme allemande, la réforme luthérienne. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur la réforme allemande et son extension dans les pays voisins. Mais maintenant, il nous faut voir une autre réforme, si j'ose dire, ce qu'on pourrait appeler la réforme humaniste. Peut-être que, néanmoins, avant de parler de la réforme humaniste, on pourrait encore dire quelques mots. Attendez voir. Je trouve ici. Pas eu le temps de se préparer ce soir parce que, hélas. Bon, non, je crois qu'on va continuer comme ça. Bon, la réforme humaniste est une réforme qui s'est étendue en Suisse, puis en Alsace, et ensuite en France. Voyons d'abord, si vous voulez, la réforme en Suisse. La réforme en Suisse a eu pour centre Zurich, et le réformateur qui était le réformateur de Zurich, Zwingli. Zwingli était un prêtre, un clerc comme Luther, mais un homme qui était marqué par la réforme humaniste, par des gens comme Erasme, alors que nous l'avons vu, Luther n'avait pas du tout été marqué par l'humanisme. Hein. Mais sous l'impulsion d'Erasme, Zwingli était un homme qui était tenté de revenir aux sources de la Bible, l'hébreu et le grec. Il avait notamment appris l'hébreu et il avait été initié à la philosophie grecque. Il avait étudié le Nouveau Testament d'Erasme et il avait pris conscience des erreurs de l'Église catholique. Notamment, il était devenu un homme qui ne pouvait plus sentir du tout les pèlerinages. Il avait une haine sans borne des pèlerinages. Zwingli, quand Luther a lancé son mouvement, s'est senti poussé lui aussi à suivre la même voie à Zurich et il est devenu un réformateur beaucoup plus radical que Luther. Il y a eu une rupture brutale, tellement brutale d'ailleurs que le petit peuple ne l'a pas comprise. Un petit peu, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le peuple catholique au moment de Vatican II. Vatican II a été comme un ébranlement pour le petit peuple catholique, un petit peu comme l'a été la réforme de Zwingli. Zwingli était un homme qui avait donc été amené à prendre des positions, nous l'avons vu, beaucoup plus radicales que Luther, et qui va être aussi amené à... Je me retrouve dans mes notes... qui va être amené effectivement à intervenir beaucoup plus loin que Luther ne l'avait été. Il y a en Suisse trois époques d'expansion de la réforme, donc qui correspondent avec trois zones de la Suisse. C'est en 1519 que Zwingli va lancer le mouvement de la réforme à Zurich. Ce mouvement de réforme va durer jusqu'en 1526. À partir de 1526 jusqu'en 1532, la réforme va gagner le centre de la Suisse et notamment la ville de Berne. Et c'est en 1526 que va arriver à Berne, dans l'hiver, pendant l'hiver 1526-1527, un jeune homme qui vient comme précepteur d'école, comme maître d'école. Il se présente comme maître d'école sous un pseudonyme, sous le pseudonyme d'Ursanus. Pourquoi Ursanus ? Ça vient d'Ursus, en latin, ça veut dire l'ours. Parce que l'emblème de la ville de Berne est un ours. En fin de compte, le véritable nom de cet instituteur était Guillaume Farel. Guillaume Farel était un ami de Lefèbvre d'Étaples, qui était un des réformateurs strasbourgeois. Et lorsque Lefèbvre d'Étaples et ses amis avaient quitté Strasbourg pour revenir en France, Farel, lui, était tout simplement allé en Suisse dans l'intention de prêcher la réforme. Il est donc arrivé à Berne et très prudemment, il avait sollicité un poste de maître d'école en attendant que le Seigneur lui ouvre une porte. C'est alors que, à Zurich, une controverse a éclaté au sujet de la Sainte-Seine. Zwingli avait prêché donc la réforme et il s'était élevé notamment dans une fameuse prédication contre la présence réelle dans la messe. Le grand conseil de la ville de Zurich avait donc décidé que le dimanche suivant serait organisée une disputation sur cette question de la Sainte-Seine et qu'on déciderait. Donc, Ursanus, alias Guillaume Farel, s'était rendu à Zurich pour et il avait pris parti pour Zwingli dans cette querelle. Finalement, Zwingli l'avait emporté haut la main avec les citations bibliques. Il avait convaincu donc le Grand Conseil du bien fondé de la réforme et le Grand Conseil avait donc décidé que la ville de Zurich allait maintenant passer à la réforme. Que la religion catholique, la pratique de la religion catholique était désormais interdite sur le territoire de la République de Zurich et que la religion officielle était désormais la religion donc qui allait naître de ce que Zwingli et ses associés allaient élaborer. Tout était à créer, n'est-ce pas ? Donc, dans les semaines qui suivent, Zwingli prêche les grandes vérités de la réforme. Le salut par la foi, il attaque le purgatoire, l'adoration des saints, et Guillaume Farel donc décide, une fois la réforme bien établie à Zurich, de répandre partout ailleurs, n'est-ce pas, en Suisse, le message de la réforme. De Berne, Farel se rend dans la ville d'Aigle et là, il se dévoile pour ce qu'il est, c'est-à-dire Guillaume Farel, ministre de la parole. Il se proclame tel donc au printemps de 1527. D'Aigle, il passe à Lausanne pour prêcher la même réalité. Et là, il convertit un moine qui sera exécuté d'ailleurs pour s'être converti. À cette époque-là, Berne était un état militaire qui fournissait, vous savez, les fameux volontaires suisses qui combattaient dans toute l'Europe, qui étaient des mercenaires. Les soldats suisses étaient très réputés et ils étaient formés essentiellement à Berne. Berne était administrée par deux chambres, que l'on appelait le Grand Conseil et le Petit Conseil. Et immédiatement, à la suite de la prédication de Guillaume Farel à Berne, la question de la réforme est donc venue à l'ordre du jour. Les deux conseils sont entrés en conflit sur cette question de la réforme et pourtant Berne petit à petit s'est rapproché de Zurich. En 1527, le Grand Conseil a été renouvelé par des élections et une majorité en faveur de Zurich s'est dessinée donc en faveur de la réforme. Il y a donc eu à nouveau, comme à Zurich, une disputation. Une disputation à trois composantes. D'une part, bien entendu, la partie catholique. D'autre part, Guillaume Farel. Et troisièmement, les anabaptistes. Les anabaptistes qui commençaient à intervenir dans cette région-là. Or, la disputation de Berne intéressait cinq cantons. Cinq cantons qui s'intéressaient à cette question de la réforme. Zwingli a décidé de participer à la disputation de Berne, et il s'est rendu lui-même à Berne avec 300 de ses collaborateurs. Il est arrivé à Berne le 9 juillet. La conférence a eu lieu dans l'église des Cordeliers de Berne. Aux côtés de Zurich, il y avait des hommes de poids, par exemple Martin Bucer, qui sera le réformateur de Strasbourg, Capiton, dont nous avons déjà entendu parler pour le livre remarquable qu'il avait écrit sur Israël, et puis un certain Scolopende, qui lui aussi sera un des grands noms donc, de la réforme. C'était un fribourgeois qui défendait les positions romaines, et il était décidé que dans la disputation, on ne devrait tirer des arguments que de l'écriture. Autant dire que la chose était bouclée d'avance, et on pouvait d'avance dire quelle serait l'issue de la disputation. Le 7 janvier 1528, la disputation donc a commencé en grande pompe, et le 19 janvier, Zwingli a prêché dans la cathédrale de Berne au moment où un prêtre s'apprêtait à célébrer la messe. À la suite de la prédication de Zwingli, ce prêtre a été convaincu. Il s'est dépouillé de ses vêtements sacerdotaux, il est venu s'agenouiller devant l'autel en disant qu'il adoptait la réforme. Le dimanche 22, le dimanche suivant, la messe était complètement abolie sur le territoire de la République de Berne. Néanmoins, la disputation continuait. Les arguments catholiques étaient tout à fait intéressants. Voilà par exemple comment les catholiques voyaient les choses. Ils disaient « Il est écrit » que les chrétiens doivent être soumis aux autorités. Or, les chrétiens sont tenus d'obéir même au diable, puisque le diable est le prince de ce monde. Vous voyez l'argumentation, hein ? Il est aussi écrit « Accorde-toi avec ton ennemi ». Donc, si les chrétiens doivent obéir au diable et s'accorder avec leur ennemi, à combien plus forte raison doivent-ils s'accorder avec l'Église, seule, unique, catholique, sainte, romaine et apostolique et tout ce que vous voudrez. Voilà l'argumentation des catholiques. Ça n'a pas convaincu le Grand Conseil, qui donc a voté, confirmé le 25, l'abolition de la messe et la destruction des images et des statues. La réforme donc triomphait à Berne. Et le 28 janvier, Zwingli a fait dans la cathédrale de Berne un dernier sermon sur le thème suivant « N'abandonnez pas Jésus-Christ ». Soyez fidèles à Jésus-Christ. Le 7 février, l'édit de réforme était publié à Berne définitivement. Avec cet édit, on interdisait les jeux, les danses, les vêtements déshonnêtes, les maisons de prostitution, et un consistoire était nommé pour veiller à l'application de ces mesures et sur les bonnes mœurs. Les monastères ont été abolis, les moines chassés. Les monastères ont été transformés en hôpitaux. Et à Pâques, la première Sainte-Cène a été célébrée solennellement avec un grand sentiment de sainteté et de la présence de Dieu. C'était véritablement le réveil. Un conseiller a été destitué parce qu'il avait commis un adultère. Et les grands ont renoncé à leur pension et aux privilèges qui étaient le leur. Il y en a même qui sont allés jusqu'à pousser le zèle, jusqu'à aller dérober une relique qui était la tête d'un saint, Saint Béat, qui était vénéré dans une chapelle des montagnes voisines, pour constater que c'était un crâne qui était complètement faux. Et en fait, ça, ils ont été mal inspirés en agissant de cette manière-là, car les catholiques voisins de la ville d'Interlaken ont pris ombrage qu'on ait volé la tête de leur saint. Et alors, ils ont demandé à Rome de provoquer une mobilisation contre la ville de Berne pour faire rendre justice de ce privilège. Et la guerre a éclaté entre Berne et Interlaken pour cette malheureuse question de la tête de Saint Béat qui avait été volée par les gens de Berne. Et on verra la prochaine fois comment s'est terminée cette bataille mémorable. Tu me prêtes ton crayon ? Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?